Session Deus Caritas Est, juillet 2012. L'amour de Dieu, seul fondement de la vraie et juste bioéthique, par Luc Jagger.
Cette transition avec Guy, je pense, est vraiment adéquate. Après tout, à quoi est-on vraiment appelé, si ce n'est à la vie éternelle? Et comme le Seigneur que je porte autour du cou, ce qu'il nous indique, le Seigneur, en venant comme un enfant, habillé en pèlerin, c'est que nous sommes tous en chemin vers la vie éternelle. Et que pour cela, il s'agit de tenir fermement le bâton de la foi. Le bâton du pèlerin, notre bâton du pèlerin, c'est le bâton de la foi qui nous donne l'eau de vie, l'eau du baptême, l'eau qui est symbole ici aussi du Saint-Esprit. Maintenant, notre Seigneur Créateur, dans sa bonté, nous a tous fait uniques. Nous donnons des dons. Ces dons qu'il s'agit de découvrir en nous, eh bien, ce sont ces dons symbolisés par des grappes de raisin dans un petit panier que le Seigneur porte, qu'il nous donne et qu'il nous demande de transformer en vin. Le vin, c'est le symbole de l'amour. Maintenant, nous, Français, nous savons ce qui fait un bon vin. Ce qui fait un bon vin, c'est un travail de patience. Ce qui fait un bon vin nécessite d'écraser les grappes, nécessite de les presser, ce qui génère en quelque sorte tension, difficulté, effort, peine. Néanmoins, avec la patience, sachant que tout cela est réalisé par le Christ lui-même en nous, tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui, eh bien, se transforme en vin que l'on peut donner aux autres. Le Seigneur vient en nous à travers son sang. Vin transformé en sang. Et nous sommes en ce mois de juillet, eh bien, dans le mois du très saint précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ces mots sont bien à propos de revenir à la signification même de ce qui nous amène à vivre en tant que chrétiens, sachant que c'est le sang du Christ qui nous protège en toutes choses. Maintenant, le Seigneur vient en tant qu'enfant. Et cela me fait vraiment penser à ce petit garçon qui donne 5 pains et 2 poissons. C'est un enfant qui a donné ces 5 pains et ces 2 poissons que le Christ a alors transformés, multipliés à l'infini, on peut le dire. Nous, c'est ce cœur d'enfant que nous avons à avoir, donnant nos pauvres petits pains et nos pauvres petits poissons, qui sont déjà le fruit des dons que le Seigneur nous a donnés, mais qui ne sont accessibles que si on les aborde avec un cœur d'enfant, et qui alors, entre les mains du Christ, se trouve multiplié à l'infini. Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains, de même que les pieds, tout en sachant que c'est avec le cœur d'enfant que l'on découvre le Christ. Et le Christ vient en tant que Christ roi. Et c'est par lui que le Saint-Esprit descend sur nous. Donc, je suis chrétien. Et chrétien, c'est de croire en un Dieu personnel, de croire en Jésus-Christ, de croire en un Dieu incarné dans la matière, vrai Dieu, vrai homme. Deux composantes, une composante divine, une composante humaine. Deux dimensions, une dimension matérielle, matière, une dimension spirituelle. Deux dimensions qui se rejoignent en un. C'est en cela que je crois. Le Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, le premier des hommes. En ce sens, il est l'alpha et l'oméga. C'est à son image que nous avons à vivre. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est le chemin, ce que l'on a à imiter. La vérité. Une vérité. En tant que chrétien, nous croyons en une vérité. Vérité avec un grand V. Il y a plusieurs manières de percevoir la vérité qui créent en nous des paradoxes. Parce que nous ne pouvons pas vraiment, avec nos faibles sens, unifier certains de ces paradoxes. Néanmoins, c'est toujours qu'une vérité. Et le Seigneur nous dit qu'il est aussi la vie, la vie. La vie. Je ne sais pas si cela est vraiment une coïncidence, après tout. Ça signifie que si l'on veut vraiment comprendre la vie, on ne l'a que par cette parole du Christ. La vie ne peut que être en Dieu. C'est pour cela que le Seigneur, quand il nous dit « Viens et suis-moi », laisse les morts s'occuper des morts. Cette parole-là paraît être dure. Laisse les morts s'occuper des morts. Néanmoins,
laissons les morts.
Signe de la technique. La technique, ici, est peut-être qui se fait entendre ici, est peut-être le signe qu'au bout du compte, elle a quelque chose à voir aussi avec la mort. Bon, mais laisser les morts avec les morts, ça nous indique en fait que la vie est à chercher ailleurs que dans la matière seule. C'est ça que cela veut dire. Et que nous devenons vraiment, vraiment vivants une fois que nous avons ouvert nos cœurs à la vraie vie qui est celle de l'Esprit Saint. Donc, je suis chrétien, mais je suis aussi scientifique. Et cette perception, en fait, de la vérité. La vérité, le Christ dit « Je suis la vérité ». La vérité, c'est Dieu. Ça englobe Quand on parle de vérité, on touche à Dieu. Eh bien, cette vérité, elle est aussi celle qui nous amène à la réalisation que l'amour en fait partie. Parce que le Seigneur, il nous dit, il est la vérité, la vie, et c'est aussi l'amour. Ces trois mots, amour, vérité, vie, eh bien, en quelque sorte, se reflètent l'un, les uns les autres. Et c'est sur ces mots, en fait, que je vais un peu élaborer. La bioéthique, Pierre-Olivier Ardouin a bien expliqué vraiment les deux derniers jours ce en quoi elle consistait et aussi les grands enjeux qui sont derrière la bioéthique. Je vais simplement revenir un peu à l'étymologie du mot. Quand on parle de bioéthique, on parle en fait, on voit deux mots, bio et éthique. Bio, c'est tout ce qui est en relation avec la vie. L'éthique, en fait, c'est la science des mœurs. Les mœurs, ça ramène à la morale. Qu'est-ce que c'est que la morale ? C'est la connaissance du bien et du mal. C'est ça. Donc, bioéthique, c'est tout ce qui rapporte à la connaissance du bien et du mal en relation avec la vie. Le Seigneur nous dit qu'il est la vérité et la vie. Eh bien, on peut comprendre très bien, simplement en regardant le mot bioéthique, que si l'on est chrétien, bioéthique résonne comme le fondement même sur lequel on a à édifier nos civilisations. Une civilisation basée sur une connaissance du bien et du mal à la lumière de la vie du Christ. Et cette connaissance du bien et du mal, le Seigneur, après tout, dans sa miséricorde, eh bien, nous a permis de nous déplacer dans ce champ de connaissance. Mais je dois dire que la connaissance du bien et du mal est liée aussi au péché originel. Quand on regarde ce que est vraiment la chute, c'est d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ce qui nous a, en quelque sorte, le fait d'en manger, a fait rentrer la mort, véritablement. Alors ça veut dire quoi, connaissance du bien et du mal ? Le problème, c'est que si on cherche la connaissance du bien et du mal, ou si on en vient à la comprendre, en quelque sorte, si on l'utilise selon des critères qui sont les nôtres propres, eh bien, on en vient à ériger des lois qui sont basées sur une certaine relativité, une relativité humaine. Peut-on nous-mêmes décider ce qui est bien ou mal. Le Seigneur voulait nous épargner cela, après tout. Il voulait nous épargner en nous disant, eh bien, faites-moi confiance totalement. Tout ce que vous ferez, eh bien, étant en union avec moi, sera pour ma plus grande gloire. Mais nous avons voulu, en quelque sorte, à un moment donné, enfin l'histoire humaine a fait que, par la chute, eh bien, en mangeant de cet arbre du bien et du mal, eh bien, on a cherché à usurper le Seigneur. Maintenant, on peut bien voir que la bioéthique, vue sous cet angle-là, doit, en tant que chrétien, être ancrée dans le Christ. Maintenant, pour celui qui ne croit pas en Dieu, eh bien, cette bioéthique, eh bien, c'est une recherche dans la décision de ce qui est bien et du mal, basée sur la science, éventuellement. Et quand on parle de bioéthique, le mot bio, qui ramène à la biologie, eh bien, ce bio, c'est vraiment bios, et vraiment la composante de la vie qui s'inscrit dans la matière. Alors, notre pape, Benoît XVI, a écrit une autre encyclique qui est Caritas in Veritate, l'amour en vérité, qui est une continuation, de Deus Caritas Est. Et je vous invite vraiment à vous y plonger. Parce que de Deus Caritas Est, eh bien, une fois qu'on a cette édification du sens de l'amour, eh bien, on en voit dans Caritas in Veritate, c'est mise en pratique sociale. Et il y a plusieurs points dans cette encyclique qui illustrent l'importance de la bioéthique. En fait, cette encyclique est basée d'un côté sur le développement intégral de l'homme. Développement intégral de l'homme, c'est vraiment ce à quoi on aspire. Donc, développement intégral de l'homme dans la société, qui touche à l'économie, qui touche à tous les problèmes relatifs au fonctionnement de nos sociétés, dont maintenant aussi ces fondements fondamentaux sur lesquels et qui touchent à la vie. Alors, ce qui m'a frappé véritablement lisant cette encyclique et qui a résonné en moi et qui en quelque sorte aussi reflète une intuition que je commence à avoir de la manière dont les choses se déroulent, eh bien, et en quelque sorte aussi partagée avec Benoît XVI. Ce qui est vraiment... Il faut que je trouve... C'est le point... C'est le point 74. Le point 74 de l'encyclique Deus Caritas Est vient en nous disant, en nous parlant du domaine, en fait, primordial et crucial de l'affrontement culturel entre la technique et la charité. Et ce qu'il nous dit, le pape, c'est que actuellement, on peut considérer comme un absolu et une responsabilité morale de l'homme de s'impliquer véritablement dans la bioéthique, où se joue de manière radicale la possibilité même d'un développement humain intégral. Ça, c'est vraiment des paroles fortes. Le développement de l'homme... intégral, le développement intégral de l'homme nécessite la bioéthique. Et il s'agit, comme il le dit, d'un domaine particulièrement délicat et décisif où émerge avec une force dramatique la question fondamentale de savoir si l'homme s'est produit lui-même ou s'il dépend de Dieu. Les découvertes scientifiques en ce domaine et les possibilités d'intervention technique semblent tellement avancées qu'elles imposent de choisir entre deux types de rationalité. Celle de la raison ouverte à la transcendance et celle d'une raison close dans l'immanence technologique. Il exprime ici de manière très claire les enjeux. On se trouve vraiment devant un haute en latin, ça se traduit par devant un ou bien. Ou bien on fait cela et on arrive à ceci, ou bien on décide quelque chose d'autre et on arrive à quelque chose d'autre, ça a d'autres conséquences. Nous sommes à une croisée des chemins. Ça, c'est une intuition profonde. Croisée des chemins, nous sommes enfin. Comme l'a dit saint Paul, dans la fin des temps. Mais il est vrai que cette fin des temps, eh bien, nous sommes dans la fin des temps depuis la venue du Christ, 2000 ans. Mais c'est vrai aussi que de par le développement des techniques, eh bien, on se rapproche de plus en plus devant ce point de croisement où on n'y a plus de possibilité pour l'homme d'éviter de choisir. De prendre une décision. Et c'est là ce ou bien. Que va-t-on choisir pour ce développement de l'humanité? Et ce que le pape nous dit, c'est pourtant la rationalité de l'agir technique centrée sur lui-même s'avère irrationnelle. Clairement, il en vient immédiatement à nous dire que ici, c'est irrationnel parce qu'elle comporte un refus décisif du sens et de la valeur. Si on n'est que dans la technique, effectivement, on perd la vision véritable de ce qui est important pour connaître, en fait, ce qui est bien ou mal. Donc, qu'est-ce que la technique nous a apporté? Et ça, c'est Paul VI qui nous l'avait déjà, en fait, bien fait comprendre dans son encyclique Humanae Vitae. Dans ce développement intégral de l'homme, de par les développements de la science, eh bien, on en vient de plus en plus à avoir contrôle sur la matière. Je ne sais pas si on se rend vraiment bien compte de ce que ça signifie, contrôle sur la matière. Il y a eu les progrès sur le contrôle de l'atome. Maintenant, les progrès décisifs de ce 21e siècle et qui ont débuté au 20e siècle, eh bien, ces progrès décisifs qui mènent à comprendre de manière un peu plus profonde la réalité, je dirais, du monde vu de la matière, eh bien, se jouent au niveau de la compréhension de ce que nous sommes en tant que matière. Et c'est phénoménal. C'est vraiment phénoménal. Nous sommes non seulement capables de concevoir, mais aussi de manipuler la vie, cela toujours par ce développement des biotechnologies qui nous amène à pouvoir travailler sur le fondement même de la matière humaine, les molécules, l'information qui code pour la vie inscrite dans la matière, la fécondation in vitro, la recherche sur les embryons humains, la possibilité du clonage et de l'hybridation humaine, apparaissent et sont promus dans la culture contemporaine du désenchantement total qui croit avoir dissipé tous les mystères parce qu'on est désormais parvenu à la racine de la vie. Ça, c'est le point 75 de l'encyclique Caritas in Veritate. C'est ici que l'absolutisme de la technique trouve son expression la plus grande. Dans ce genre de culture, la conscience n'est appelée à prendre acte que d'une pure possibilité technique. On ne peut minimiser alors les scénarios inquiétants pour l'avenir de l'homme ni la puissance des nouveaux instruments dont dispose la culture de mort. L'homme, par la technique, et ça c'est une réalité, on est venu effectivement à comprendre une part des racines de la vie inscrites dans la matière. Néanmoins, parce que ce n'est pas toute la vie, comme l'a dit le Seigneur. La vie, c'est lui. Eh bien, on en vient à disposer d'instruments pour qui peut être utilisé par la culture de mort. Et la culture de mort, c'est quoi ? Ça vient par l'avortement, le droit de pouvoir décider de la vie ou de la mort de tout individu. Et en ce sens, de pouvoir décider sur la base de ce que l'on croit être bien, si certains individus ont le droit de vie ou de mort. Ceci implique donc une planification eugénique, systématique des naissances. Fruit de la technique. D'un autre côté, on voit une mentalité favorable à l'euthanasie, à nouveau, droit de décider de la vie ou de la mort, mais à un autre niveau. C'est-à-dire, là, on touche à la fin de la vie, alors que les autres techniques, diagnostics prénataux, etc., touchent à la naissance. Ou alors là, on se ferait un chemin cette euthanasie étant véritablement une manifestation tout aussi abusive d'une volonté de domination sur la vie qui, dans certaines conditions, n'est plus considérée comme digne d'être vécue. Donc tout cela, derrière tout cela se cachent des positions culturelles négatrices de la dignité humaine. Et ces pratiques en viennent à renforcer une conception matérialiste et mécanistique de la vie humaine. Qui pourra mesurer les effets négatifs d'une pareille mentalité sur le développement ? Ça, c'est le pape qui nous le demande. Comment pourrait-on s'étonner de l'indifférence devant des situations humaines de dégradation si l'indifférence caractérise même notre attitude à l'égard de la frontière entre ce qui est humain et ce qui ne l'est pas ? C'est toujours le pape qui le dit et qui nous pose la question. Ce qui est stupéfiant, mot du pape, stupéfiant, c'est la capacité de sélectionner arbitrairement ce qui aujourd'hui est propre comme digne de respect. Prompt à se scandaliser pour des questions marginales, beaucoup semblent tolérer des injustices inouïes. Inouïes. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit inouï en français ? Ça veut dire que c'est on a dépassé les limites. Tandis que les pauvres du monde frappent aux portes de l'opulence, le monde riche risque de ne plus entendre les coups frappés à sa porte. Est-on sourd ? Aveugle ? Nous avons vraiment été anesthésiés, en quelque sorte, par notre culture. Dans sa conclusion, il commence comme ça, le pape. Sans Dieu, l'homme ne sait où aller et ne parvient même pas à comprendre qui il est. Face aux énormes problèmes du développement des peuples qui nous pousseraient presque au découragement et au défaitisme. Seule la parole du Seigneur Jésus-Christ vient à notre aide, en nous rendant conscients de ce fait que Jésus nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est ce qui nous encourage et qui nous rassure, parce que quand il nous dit cela, il nous dit aussi « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Notre pape, qui a une compréhension de la chrétienté dans un contexte historique, un développement qui, sur les 2000 ans qui, de la chrétienté, eh bien, est vraiment là à nous dire, nous sommes à ce point de croisement. Nous sommes là à vivre, nous, un moment décisif de l'humanité humaine. Nous sommes arrivés à ce point de croisement où nous pouvons dire que c'est le temps des apôtres des derniers temps. Ceci a commencé, ce développement des techniques a commencé non pas hier, mais avant-hier. Il a commencé il y a 300 ans par un choix de civilisation qui émerge de la chrétienté, qui voit en l'homme, eh bien, bien sûr, le fruit de la création de Dieu. Il y a 300 ans, c'était encore vraiment bien ancré dans la culture, qui en voit en l'homme la possibilité de se prendre en main. Et c'est vrai que, après tout, c'est légitime. Le Seigneur ne nous dit pas de ne rien faire. Il ne nous dit pas retourner au temps des hommes de caverne. Il est venu pour nous montrer la voie et pour aussi consacrer à travers nos mains de chrétiens toute la création. Toute la création. Le fruit du travail des hommes. Maintenant, il y a 300 ans, c'est aussi, je dirais, le début d'une dynamique où il y a une forme d'émancipation de l'homme vers une compréhension comme peut-être l'homme peut véritablement se substituer éventuellement à Dieu. C'est la vision franc-maçonne. La vision franc-maçonne ne nie pas automatiquement l'existence d'un Dieu. Les francs-maçons sont déistes, certains, même beaucoup. Ils croient en un Dieu, en quelque chose qui a l'origine du monde. Mais une fois que la mécanique, les développements de ce monde est en place, eh bien, ils croient que tout va se développer par lui-même, en quelque sorte. Le Dieu du franc-maçon, c'est un Dieu qui regarde de l'extérieur sa création et la laisse se développer. Il y a un continuum, en fait, dans cette vision. Point de départ, et puis tout se développe. Maintenant, ça se développe selon peut-être des lois, mais tout se développe toujours que du bas, toujours que du bas. De la matière, c'est la matière qui devient de plus en plus complexe, ce qui amène en fait cette complexification du traitement de l'information biologique, qui en vient en fait à être le substrat même où émerge la conscience, dont émerge la conscience. La conscience humaine, donc, est, qui tend vers le spirituel, qui tend vers une transcendance. Je dirais que beaucoup de scientifiques, ce que je dis là, peut être traduit comme ce que un nombre assez important de scientifiques peuvent croire. Eh bien, la transcendance humaine, qui est difficile à être palpée, est néanmoins toujours seulement comme émergeant de la matière. Mais le Seigneur ne nous dit pas ça. Nous sommes chrétiens. Ce qu'il nous dit, c'est que si nous ne sommes pas baptisés de l'Esprit qui vient d'en haut, eh bien, nous ne sommes pas vivants. Alors, le Christ est venu pour renouer un lien entre la matière et Dieu, et le monde spirituel. L'homme, c'est le chaînon remarquable dans la création de Dieu qui unit le monde de la matière, d'où émergent bien sûr beaucoup de choses, mais au monde de l'esprit, les deux dimensions de la création de Dieu. Le péché originel casse cela, casse le lien. On n'a plus de perception de cette connexion entre le monde de la matière et le monde des esprits. C'est ça le péché originel. C'est le fait que d'un état que nous ne connaissons pas, seul Dieu sait ce que cela est. Seul le vrai homme sait ce que c'est que d'être homme. Seul Jésus-Christ sait ce que c'est que d'être vrai homme. C'est le premier des hommes. Eh bien, cette image de Dieu, c'est celle vers laquelle nous avons à tendre, à être et à vivre. Mais c'est aussi celle qui a été cassée par le péché originel. Alors, il y a une chose, quand on se regarde les uns les autres, sait-on vraiment ce que l'on regarde ? C'est vrai, nous voyons des hommes et des femmes, mais je crois véritablement que ce que nous sommes véritablement en tant qu'hommes et femmes, eh bien, en nous regardant les uns les autres, nous n'en avons encore qu'un pauvre reflet. Parce que ce n'est que à la résurrection des morts que nous serons vraiment dans cette image de ce que le Seigneur voulait pour l'homme. Nous sommes dans un devenir de devenir vraiment l'humanité. Nous sommes l'humanité naissante. Cette humanité qui était destinée, qui est destinée pour une vie d'éternité. Les saints l'ont très bien compris cela. C'est pour cela que notre pauvre vie humaine sur cette terre, eh bien, en aucun cas n'est aussi désirable que ce que le Seigneur nous fait entrevoir pour le futur. D'accord. Alors, notre désir de chrétien, c'est cette vie d'éternité, c'est d'être de pouvoir vraiment être cette humanité intégrale. Eh bien, l'humanité intégrale, est-ce qu'elle peut venir, est-ce qu'elle peut simplement émerger de la matière? C'est clair que la matière et ce que nous sommes à même de réaliser maintenant dans la matière va fortement y contribuer, mais ce n'est pas la totalité. Et je crois que le développement intégral de l'homme, eh bien, c'est celui qui se jouera après que la terre et le ciel passeront, c'est-à-dire après que nous aurons à nouveau un corps glorieux dans le Christ. Donc l'aventure humaine, c'est une fois que nous passons de cette vie terrestre à la vie éternelle. Et c'est ça que nous avons à donner. C'est ça l'aspiration de l'homme. Alors, la science, actuellement, de par la technique, eh bien, on vient à vouloir faire un simulacre de nos aspirations de chrétiens. Simulacre, c'est-à-dire à vouloir nous proposer une vision qui nous fait regarder l'homme dans son développement intégral seulement dans la matière. Notre développement intégral, c'est pour la vie éternelle, c'est dans un futur. Le développement intégral de l'homme, vu par le scientifique athée, est dans la matière. Mais paradoxalement, les objectifs semblent pouvoir être similaires, en ce sens que ce qu'il recherche, c'est l'immortalité. Le contrôle de l'homme dans la matière, qu'est-ce que ça apporte? Le fait qu'on puisse fabriquer des hommes maintenant. Eh bien, tout cela fait partie d'un scénario qui a débuté il y a, on va dire, vraiment une centaine d'années. La première des choses, c'est que du fait des progrès de la technique, de la médecine, eh bien, on se dit, maintenant on a possibilité de soigner des maladies, d'éviter une certaine souffrance de l'homme, ce qui est bien. Mais par ailleurs, ça pose un autre problème. Ça génère une crainte que maintenant que les personnes peuvent être soignées, peuvent être guéries par certaines techniques, eh bien, l'homme se multiplie plus rapidement. Il se multiplie plus rapidement et la population grandit, 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 et puis on se trouve dans une situation qui génère la crainte. Que va-t-on faire de tous ces hommes? Et c'est là que la question se pose. Si maintenant nous avons la capacité d'avoir tant d'hommes, est-ce qu'on veut véritablement avoir une dilution de certaines faiblesses humaines dans cette population grandissante? Après tout, la vision de l'évolution, c'était de dire, et que l'évolution a apporté, c'est de dire que c'est le plus fort qui survit. Ce sont les meilleurs gènes qui survivent. Ce sont ceux qui sont les plus à même de s'adapter qui survivent. Mais avec les progrès de la science, eh bien, on en vient à soigner des personnes faibles. Qui sont faibles, qui sont vues comme faibles, qui sont vues comme, après tout, n'étant peut-être pas dignes de vivre. Et c'est là que les réflexions dans les milieux scientifiques du début du siècle dernier ont amené à une vision positive de l'eugénisme. Après tout, eh bien, créons l'homme nouveau qui sera plus parfait dans la matière, qui n'aura plus de maladies, qui aura des capacités intellectuelles hors pair. Et comment faire cela? Eh bien, cherchons les moyens de sélectionner les meilleurs traits humains au détriment de tout ce qui est jugé comme imparfait. Le droit que l'homme s'arroge à dire ce qui est bien ou mal dans la matière. On voit très vite que de là, eh bien, on touche à des atrocités. Et en fait, la Deuxième Guerre mondiale l'a bien montré. L'atrocité des camps de concentration nazis. Ce qui est venu avant, c'était l'élimination de tous les handicapés hein, en Allemagne. Et ça a été des politiques qui ont été en quelque sorte applaudies de par le monde, aux États-Unis, en Europe. En fait, la culture scientifique de l'entre-deux-guerres était eugénique. Et nous avons des catholiques qui ont embrassé cela complètement. Alexis Carrel, que l'on cite souvent en exemple. Je dois dire une chose, il faut toujours se rappeler de la miséricorde de Dieu. Dieu veut sauver tout homme. Et je suis convaincu que toute personne, eh bien, de par la miséricorde de Dieu, aussi terrible que cela puisse paraître, ce qu'il a réalisé, eh bien, a une possibilité de choisir le Seigneur. Mais c'est vrai aussi que nous faisons ce choix en tant que chrétiens d'œuvrer pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut d'un maximum d'âmes. Et c'est vrai que le Seigneur nous dit aussi que il faudrait mieux à celui qui entraîne la perte d'un des enfants de Dieu, il vaudrait mieux pour lui de se mettre une pierre autour du cou et de se jeter dans l'eau. Enfin, de se noyer, quoi. De se suicider. Je ne sais pas, le Seigneur voulait pas dire « suicidez-vous », mais ce qu'il voulait dire là, c'est « ayez conscience de vos actes et des conséquences sur autrui, sur votre prochain. » Et donc, il est clair, l'exemple d'Alexis Carrel est intéressant parce qu'il s'est converti à Lourdes. Je pense qu'il avait une foi catholique. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'il est décédé en tant que catholique, mais il a aussi écrit des livres qui ont eu des conséquences fâcheuses. On ne peut pas avoir une vision qui, en quelque sorte, se retrouve être apologétique, qui est là dans l'apologie de ce que le régime nazi voulait faire. C'est impossible. C'est pas compatible avec la chrétienté. Parce que le Seigneur nous dit le plus faible et le plus petit d'entre vous, eh bien, il a sa place parmi vous. De par ce développement de l'eugénisme, eh bien, on est en venu à un moment donné à la contraception, limitation des naissances. Comment? Eh bien, premier stade, stérilisation. forcé. Après, incitation du désir d'être plus maître de son corps, contraception pour procréation à la demande. Maintenant, clairement, s'il y a procréation à la demande, il y a aussi des risques d'échec que cette contraception soit effective. Développement de l'avortement. Les plus grands financiers de la régulation des populations, début du siècle dernier, c'était Rockefeller. Rockefeller, eh bien, Alexis Carrel était à l'université de Rockefeller, Columbia, enfin, institut financé par Rockefeller, l'université de Columbia. Rockefeller, c'est lui aussi qui est à la base du financement de Sanger, une des personnes, cette femme qui est à l'origine du planning familial. Planning familial, c'est Planned Parenthood, qui actuellement est le plus grand pourvoyeur d'avortements aux États-Unis. Des millions, des milliards de dollars sont donnés à ces institutions. Les connexions. Un des hommes les plus riches du monde, Bill Gates, fondation Bill et Melinda Gates, les parents de Bill Gates étaient très actifs dans Planned Parenthood, dans le planning familial, et lui-même avec la fondation de Melinda, Melinda et Bill, eh bien, promeuvent la recherche sur de nouveaux modes de contraception. Et cela pour la libération de la femme dans le monde entier. Ce sont des milliards arrosés sur le monde pour la culture de mort. C'est la vision du futur. La vision du futur du scientifique, c'est celle qui nous est donnée par Joël de Ronet. Joël de Ronet, qui est un scientifique français futuriste, futurologue, on les appelle des futurologues, diplômé de MIT aux États-Unis. Il a écrit beaucoup de livres en français. Il est souvent interviewé à la radio. Il a été interviewé à KTO, c'est la prononciation américaine. À KTO. À l'émission, une émission de VIP, je vous conseille de la voir. Et faites-moi savoir si vous êtes abusé ou non. Récemment, il y a 3 ou 4 mois, il a été invité donc à cette émission VIP à KTO par une journaliste catholique. Et Joël de Ronet n'est pas catholique. Alors comment se fait-il qu'il est invité en tant que scientifique à KTO ? Eh bien, il vient en nous décrivant un futur possible. Il se dit spirituel. Il se dit ouvert à la spiritualité, à la transcendance humaine. Et lui-même pratique le yoga. Maintenant, je dirais, après tout, le yoga... Nous, quand nous sommes devant le Saint-Sacrement et que nous prions dans la méditation, je dirais que... Je sais, j'ai jamais pratiqué du yoga, mais je pense que nous aspirons à rencontrer cette dimension transcendante qui est celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, mais il ne croit pas en la vie éternelle comme nous y croyons. Il se base sur des textes d'Alexis Carrel, L'Homme Nouveau, un livre qu'il dit l'avoir beaucoup inspiré, un catholique, eugéniste. Il se dit très inspiré par Teilhard de Chardin, un catholique, qui a essayé de renouer la théorie de l'évolution avec la dimension chrétienne. Le problème, c'est tout dans un continuum. Hein. C'est de voir que tout n'émerge que de la matière. C'est toujours la même chose. La maîtrise de la matière va nous donner les clés de la vie. La vie ne vient pas de la matière uniquement, elle vient du ciel. Le Seigneur nous l'a dit ô combien de fois, vous n'êtes vivant que si vous êtes baptisé par l'Esprit. Maintenant, cet Esprit, on peut, ceux qui viennent en disant « Mais alors, ça veut dire que tous les gens qui ne sont pas chrétiens ou catholiques, eh bien, ils ne seront jamais vivants, ils seront perdus. » Non, parce que l'Esprit peut venir à tout moment, même à la fin de la vie, même une fois qu'ils sont décédés, ces personnes, et qu'ils voient le Christ et qu'ils découvrent la vérité. Toujours est-il que il vient en citer d'autres chercheurs très actuels, Richard Dawkins, celui dont je parlais la dernière fois, celui qui disait « Eh bien, ne serait-ce pas merveilleux de pouvoir choisir les gènes de vos enfants et de créer l'humanité nouvelle ?» C'est ça qu'il cite. D'autres qui croient en un autre humanisme qui s'appelle transhumanisme. Le transhumanisme, c'est ce qui vient après l'homme. L'homme en interface avec la machine. L'homme en interface avec la machine qui a la vie éternelle dans la matière. Conscience humaine en union avec la machine pour la vie éternelle dans la matière. C'est ça l'homme nouveau. Oh, c'est de la science-fiction. Non, ce n'est pas de la science-fiction. Les miracles de la science sont en train d'apparaître, de se faire, de se réaliser. Le Vatican a organisé un congrès sur les cellules souches. Pourquoi ? Parce qu'après tout, il est clair qu'avec la maîtrise de la technique scientifique des cellules sur les cellules souches, là je parle, quand le Vatican parle de cela, il pousse les recherches sur les cellules souches adultes, non pas embryonnaires, parce que ça c'est la manipulation de l'embryon humain, c'est pas ça qu'ils veulent. Mais quand on voit cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, je vais pouvoir régénérer des organes, on va pouvoir régénérer notre corps, le réparer. Pourquoi? Pour vivre plus longtemps. Si maintenant on est dans une capacité de régénérer nos corps, eh bien, je ne sais pas. Cette régénération peut se faire ad aeternam. Et pourquoi pas? C'est une possibilité qui n'est pas de la science-fiction. Tout ça, ça paraît fantastique. Les miracles de guérison, celui qui peut avoir une nouvelle jambe, il n'en a pas, il aura une nouvelle jambe. Celui qui a un cœur faible, eh bien, rendons-le fort. Tout ça, eh bien, c'est du domaine du possible pour le 21e siècle, pour le 22e siècle. L'Apocalypse, de quoi nous parle-t-elle ? Elle nous parle de ces miracles qui séduisent. Ils viennent par la science, ces miracles qui nous font croire que l'homme est arrivé au contrôle de sa destinée. Le motto, ce que disent des personnes comme Joël de René, eh bien, pour prédire le futur, créons le futur de l'homme. Pour prédire le futur de l'humanité, nous allons le créer. C'est ça ce que dit Dawkins, ce que disent les scientifiques que je connais dans le domaine des nanotechnologies, biotechnologies. C'est ça le message. Eh bien, la technique, c'est certain qu'elle peut être utilisée pour le bien de l'humanité. Mais il est vrai aussi que entre les mains de la culture de mort, elle en vient à être l'antéchrist. Une certaine forme, c'est l'antéchrist, qui réalise les miracles, qui en fait nous attire tous, eh bien, mon épouse était atteinte d'un cancer il y a un an après notre mariage, en 2005. Elle a été, elle a été diagnostiquée avec un lymphome non hodgkinien. C'était une expérience spirituelle intense pour nous deux. Et par la grâce de l'Eucharistie, que l'on reçoit tous les jours à la messe, le Seigneur vivant en nous, c'est ainsi que le Seigneur agit en nous. Il vient en nous. Il se donne à nous pour que, après tout, tout ce qui nous habite soit de lui. Mon épouse a fait cette prière. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Je sais que tu peux me guérir. Tu vois tout, tu sais tout. Après tout, toi, Seigneur, je sais que chacune des cellules atteintes par ma maladie, tu peux les détruire. Mais ta volonté, non pas ma volonté. L'Eucharistie, quand le Seigneur se présente à nous, juste avant la communion, « Ô Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Cette parole, on la prend pour nous alors qu'elle était pour le serviteur du centurion. C'est le centurion qui avait fait cette, qui avait dit cette parole au Christ en disant « Ce n'est pas la peine de venir chez moi. Je crois que tu peux guérir sans que tu ne viennes. Que tu peux guérir mon serviteur sans que tu ne viennes chez moi. » Et le Seigneur a dit « Oh, quelle foi ! Il n'y a personne en Israël qui a cette foi. » C'est cette foi qu'il faut que nous ayons. C'est là que je me suis dit, mon Seigneur, à chaque fois que je te prends en communion, si je n'ai pas la foi du centurion, cette foi pour ma en épouse, nous sommes un, homme et femme, unis en Dieu, un, ma chair, eh bien, cette prière, je peux la faire pour mon conjoint, la prendre pour moi. Eh bien, un mois, elle a porté ce cancer un mois. Et par la grâce de l'Eucharistie, elle a été guérie. Nous avons annoncé cela parce qu'intérieurement, on en était convaincus. C'est quelque chose de difficile à dire. Mais les scientifiques autour de nous, les docteurs, ils ne croyaient pas. Ma famille, à qui on a raconté cette histoire du miracle, est-ce que c'est cela qui les a convertis? Est-ce que c'est pour cela qu'ils croient plus en Dieu actuellement? Non. Le miracle n'est pas dans la matière. Le Seigneur l'a toujours dit. S'il a guéri, c'est simplement pour que les gens croient au miracle de la transformation intérieure qui donne la vraie vie. Quand il a dit au paralytique, ta foi t'a sauvé, s'il a guéri le paralytique pour qu'il marche, c'est simplement pour que les autres puissent comprendre que la première des guérisons, c'était celle de la conversion. Actuellement, je crois que le miracle est dans le non-miracle. Le miracle est dans le non-miracle. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Christ est mort sur la croix. Il pouvait se sauver, il est Dieu. Il a été, en fait, insulté par les pharisiens qui lui disaient « Mais sauve-toi toi-même, tu as fait tant de miracles. » C'est par sa mort que la vraie vie, que le salut de l'homme est apparu, est venu sur la terre. C'est par cela. Donc, je rejoins 100% les paroles de Benoît XVI et qui ont été énoncées par le père Bernard. N'ayez pas peur de prendre votre croix. N'ayez pas peur après tout, de mourir sur la croix. C'est cela le dernier témoignage du chrétien. Le miracle dans la chair, ce n'est pas celui-là qui convertit. Ce ne sera pas celui-là qui convertira à une époque où tous les miracles peuvent être réalisés par la science. C'est celui de cette charité, de l'apôtre du dernier temps qui en vient à dire au Seigneur à chaque fois qu'il le rencontre dans l'Eucharistie, ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font. Aie pitié d'eux. Notre prière est que nous sommes confiants que toute prière bien faite sera toujours écoutée par le Seigneur. Et comme il avait dit à Marthe Robin, ta souffrance, Marthe, eh bien elle sauve là un pays. Une personne comme toi, c'est 60 millions de Français qui sont sauvés. Bien, c'est cette offrande de nous-mêmes qu'il s'agit de faire. Pour que la civilisation de l'amour vienne. La descente au tombeau, c'était 3 jours. Le 3e jour, le Christ est ressuscité. La résurrection viendra pour l'amour, une civilisation de l'amour. Ça, j'en suis convaincu. Faites des enfants. Préparez-les. Ce sont eux qui porteront la civilisation de l'amour en leur cœur et la feront vivre. Nous, nous sommes ceux qui crient dans le désert, comme Saint Jean-Baptiste. Nous crions dans le désert par la grâce de Dieu, pas notre grâce, certains répondent. Alléluia. Tout le mérite pour le Christ. Nous ne sommes que des serviteurs insuffisants et en fait inutiles. Néanmoins, aussi insuffisants et inutiles que nous soyons, ce sont nos mains que nous voulons donner à Dieu pour que cette civilisation de l'amour s'établisse. Cela se fera, j'en suis convaincu. Et c'est dans la préparation, ce qui se passe ici, par ces enseignements, par la famille missionnaire de Notre-Dame et d'autres missionnaires dans le monde, que petit à petit, la conscience de ce monde sera une avec le Christ. Amen.
Retrouvez l'intégralité de la session, texte, audio, vidéo sur le site http://session.fmnd.org.